êtes toujours avec nous sur Bac FM, la radio du PAF 100% pop rock metal. C'est le CDLP, c'est dans les parages. Quotidiennement, on reçoit des invités qui font l'actu dans notre département, la Nièvre. De quoi mieux se renseigner sur les événements qui se passent à côté de chez nous. Et aujourd'hui, le mot événement est approprié, croyez-moi. Depuis plus d'une décennie maintenant, le festival aux quatre coins du mot célèbre le mot MOT sous toutes ses formes, avec un programme généreux rempli de spectacles, de concerts, de rencontres, d'expositions ou encore d'animations. L'occasion donc de prendre l'air avec les beaux jours qui reviennent et de créer un peu de cohésion sociale autour de la culture dans un pays qui, reconnaissons-le, en a bien besoin. Bonjour Philippe Lemoine.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la Cité du Mot qui organise l'événement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
De nombreux sujets à aborder avec vous, évidemment, mais d'abord, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le festival, c'est quoi exactement aux quatre coins du mot ?
Aux quatre coins du mot, c'est une des vieilles manifestations finalement dans la Nièvre. Elle a commencé en 2005, vous voyez, donc ça fait plus de 20 ans. Ça s'appelait à l'époque le Festival du Mot. Puis ce Festival du Mot, il a grossi au fur et à mesure des années. Il est devenu la Cité du Mot, c'est-à-dire que nous, on est un centre culturel qui est à la Charité-sur-Loire et qui travaille toute l'année. D'ailleurs, on vient régulièrement sur ces antennes pour vous donner des informations sur nos activités. Mais le festival de printemps qui a lieu à l'Ascension au mois de mai est resté depuis 20 ans et encore plus aujourd'hui le gros temps fort de l'année de la Cité du Mot, et maintenant il s'appelle aux quatre coins du mot, ce qui veut dire que nous on va aller étudier le mot sous toutes ses formes, sous toutes ses coutures. Faut pas avoir peur des mots, le mot ça peut servir à plein de choses et le mot il a plein de formes, donc le but du festival c'est d'être vraiment un festival le plus ouvert possible. On n'est pas un salon littéraire, on n'est pas un festival littéraire, bien sûr les mots ils sont dans les livres, mais pas que, ils sont dans les disques, dans les chansons, dans les graffitis, ils sont partout.
Dans nos discours.
Exactement. Et dans les discours, et on va le voir cette année avec la thématique qu'on a choisie, puisque chaque année, le festival, on le construit à partir de mots-clés ou de thématiques qui permettent de pas faire la même chose tous les ans. Et cette année, on va s'intéresser aux paroles données et à la valeur ou à la moindre valeur qu'on peut donner aux paroles données aujourd'hui.
Eh ben, allons-y sur les paroles données. Alors, c'est à la fois une promesse, une parole donnée, un engagement, une transmission. C'est cette définition-là, cet aspect-là qui vous intéressait ?
En fait, ce qui m'intéresse, c'est que ça puisse vouloir dire plein de choses à plein de gens différents. On revient sur les quatre coins du mot. Voilà, chaque expression, elle peut amener à plein d'autres choses différentes. Quand on parle de parole donnée, quand on parle de parole, il y en a qui disent « Ah oui, parole et musique, c'est la chanson. Parole donnée, c'est donner sa parole, c'est les serments, c'est les promesses, ça peut être tout ça. » Des paroles données, c'est des paroles aussi qu'on donne de soi-même ou que des gens vont collecter. On en parlera beaucoup dans ce festival, comment est-ce qu'on va à la recherche et à l'écoute, les paroles c'est écouter, bref, l'avantage d'un thème comme celui-ci, et c'est ce qu'on cherche à faire tous les ans, c'est d'ouvrir le champ des possibles plutôt que de se réduire à une seule ouverture. Et puis effectivement, dans un monde où la parole donnée peut être reprise le soir même, qu'on entend tout et son contraire sur les ondes, que ce soit de la part de... pas sur Bac FM, mais sur CNN par exemple, ou alors sur d'autres endroits, voilà, on peut quand même se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de donner sa parole et de la reprendre, ça n'a pas forcément l'air d'avoir autant de valeur que ça a pu avoir à une époque.
J'ai lu votre édito avec attention et tout le programme d'ailleurs. Vous expliquez que cette édition n'aurait presque pas dû avoir lieu comme prévu à cause de, je cite, travaux du prieuré et d'une contrainte budgétaire, fin de citation. Qu'est-ce qui s'est joué dans la préparation de cette édition ? J'ai le sentiment que ça n'a pas été de tout repos.
Un festival, c'est un organisme vivant. Il a un début, il a une fin. C'est pas quelque chose d'immuable et qui dure tout le temps. Et nous, notre festival, ça fait deux ans maintenant qu'il est sous pression. Il est sous pression d'une part parce que depuis quelques années, on a fait du prieuré. Et pour ceux qui viennent à la Charité-sur-Loire, de ce grand cloître, de tous les espaces du cloître, on en a fait le cœur du festival. C'est-à-dire que tout ce qui se passe au festival, ou une grande partie, ça se passe au prieuré, dans les espaces alentour du prieuré. Et il y a des travaux qui doivent commencer sur le site. Hein. C'est des travaux qui sont prévus depuis de nombreuses années, puisque la Cité du Mot, elle n'a pas encore vraiment de lieu à l'année où elle peut accueillir le public. Il y a des travaux importants qui sont prévus, et ces travaux importants, eh ben, ils doivent empêcher finalement pendant un an, pendant deux ans, que les espaces qu'on utilise pendant le festival soient utilisables. Donc, ça fait déjà depuis l'année dernière, on ne devait pas le faire. Puis finalement, les travaux ont été reportés, donc on l'a fait l'année dernière. dernière. Et puis cette année, ben, on s'était dit, ça va être compliqué, les travaux devaient commencer à l'automne dernier. Donc on avait des plans A, des plans B, des plans C, et on avait, s'était dit à un moment, mais comment faire un festival qui naît et qui vit dans ce cloître si on n'a pas le cloître ? Ça devient compliqué.
C'est dommage, oui.
Et puis comme on est aussi dans un monde où les finances publiques notamment, alors, puisqu'on est un établissement public, nous on a la chance d'être financé en grande partie pour nos activités, ce qui nous permet d'être généreux, d'offrir des spectacles gratuits, etc. Mais voilà, les finances publiques sont compliquées aussi. Donc entre resserrement des budgets et puis problématique vraiment très pratique de ne pas pouvoir accéder aux espaces habituels, eh ben on avait s'était dit que peut-être ce festival il fallait pas le faire, il fallait sauter une année. Et puis finalement, il n'y a pas de travaux qui commencent. Encore une fois, c'est remis peut-être au calendrier grec, j'espère pas, enfin en tout cas c'est remis à plus tard. Et puis encore une fois, on nous dit, mais quand même, vous pouvez pas faire de festival. C'est vrai qu'on est un événement important du calendrier culturel, on est le premier gros festival dans la Nièvre tous les ans.
Les gens se sont habitués en fait.
Bah oui, après plus de 20 ans, les gens attendent ce rendez-vous. Et quand on dit, bah, peut-être qu'on va devoir faire moins ou faire autrement, c'est là où on se rend compte qu'il y a un vrai attachement du public à cette manifestation. Et on s'est dit, bon, allez, on fait.
Je suis content que vous ayez abordé les finances publiques, vous me faites les transitions, figurez-vous. Dans le projet de loi de finances 2026 adopté par 49.3 par le gouvernement, une baisse de quasi 200 millions d'euros a été adoptée sur le ministère de la Culture, 170 de mémoire. C'est évidemment un de vos principaux partenaires financiers. Est-ce que cette baisse s'est fait ressentir à votre niveau ?
Alors, ces chiffres-là, c'est des chiffres globaux et qui donc se retrouvent
un peu partout.
On est plus ou moins touchés. Nous, on a la chance quand même d'être un établissement public. L'État est notre principal financeur et on fait partie des éléments qu'on appelle un peu structurants sur le territoire. Donc, on est peut-être un peu plus protégés que d'autres. On est aussi dans une région, Bourgogne-Franche-Comté, où les choix de la région ont été plutôt de maintenir les budgets éducatifs et culturels. Alors qu'on entend dans les médias des régions où tout a été sucré, ou alors on est sur des baisses de 70%. Donc on a la chance quand même d'être dans un environnement qui est plutôt favorable, mais un environnement favorable, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un environnement sous contrainte, donc il est sous contrainte aussi. Et puis comme on fait de plus en plus de choses, que les choses coûtent tout un peu plus cher qu'elles ne coûtaient les années précédentes, et ben, au fur et à mesure, ça devient difficile. Donc on a fait un choix cette année de raccourcir un petit peu le festival. On a fait le choix de faire un vrai festival, d'utiliser les vrais espaces puisqu'on pouvait les utiliser, et de raccourcir un petit peu, comme M. Cadbury, on l'a fait un peu plus court plutôt qu'un peu plus long, et on commencera non pas le mercredi, mais le jeudi après-midi, et on terminera le samedi soir en fanfare, plutôt que le dimanche midi. Voilà, on coupe un tout petit peu, mais je vous promets qu'on va voir dans le reste de l'émission qu'il y a quand même beaucoup à faire.
On va y aller sur le programme juste avant, loin de moi, l'idée de vous porter la guigne, comme on dit chez nous, mais vous n'avez pas peur que ça aille de mal en pire, parce que vous dites que les choses ont continué à augmenter, l'inflation va sans doute continuer, est-ce que vous n'avez pas peur que cette édition un peu resserrée devienne la norme finalement ?
J'en sais rien, on le verra. L'important, c'est l'imagination. Je pense que nous, à la Cité d'Humour, on le prouve depuis 8 ans. On a beaucoup de ressources d'imagination. On a une équipe incroyable. Donc, on a fait face à plein de choses. On a fait face au Covid. On a fait face à des difficultés. À chaque fois, on essaye d'imaginer des possibles. Des possibles, il y en a toujours. Ils sont pas forcément immuables. Les choses peuvent changer. Un festival, je reviens là-dessus, c'est mouvant. C'est un élément mouvant. Ça peut commencer, ça peut s'arrêter, ça peut changer. C'est pas grave. Le but, c'est qu'il soit une énergie, c'est que ce soit une énergie de découverte. Après, voilà, on a tous quelque part dans nos logiciels intérieurs cette chose qu'on a intégrée que il ne va pas y avoir plus, il va plutôt y avoir moins dans tous les domaines, dans la société, mais moins de quoi ? Moins d'argent peut-être, est-ce que l'argent fait tout ? Sans doute pas.
Certainement pas moins d'envie.
Moins d'envie, en tout cas pas, c'est sûr, moins d'idées, j'y crois pas. Donc non, on est plutôt optimiste. Voilà, les choses évoluent, elles évolueront comme elles évolueront, mais je pense qu'elles iront toujours dans le bon sens, dans le sens de la richesse et de l'ouverture, c'est ce qu'on espère. C'est vrai qu'il y a une forte pression sur des établissements comme la Cité du Mot, de dire oui, vous devriez finalement avoir des ressources propres, propre, faire payer l'entrée.
Quelle pression, pardon?
Les personnes qui nous financent savent qu'elles vont pas avoir beaucoup de financements supplémentaires à nous offrir dans les années à venir, et que un centre culturel comme le nôtre, peut-être qu'il devrait être plus un centre commercial jusqu'à un certain point, en louant ses espaces, en cherchant des recettes, en augmentant des tarifs, en faisant payer l'entrée du site. Bref, il y a plein de façons de faire rentrer de l'argent qui ne soit pas de l'argent public dans le projet. Ce n'est pas forcément le projet que moi j'ai mené depuis 8 ans. On a vraiment mené, nous, un projet qui est plutôt un projet de service public de la culture, auquel je crois et auquel on est attaché. Tout le monde y est attaché. Mais là, on sent bien que pour les années prochaines, ce service public, il va être peut-être un petit peu remis à mal, et il y aura d'autres choses qui vont se mettre en place. On espère qu'il y aura de la place encore pour la curiosité et pour la générosité, puisque parole donnée, pour revenir au festival et à l'image et au visuel qui a été créé cette année par notre graphiste Gérard Segard, ça ne vous aura pas échappé qu'on a mis un cadeau sur la couverture, parce que dans parole donnée, il y a donner, et le fait de donner, de faire des cadeaux, ça reste quelque chose d'important, et c'est quelque part dans notre ADN.
On y va dans le programme pour parler de la star de ce festival, c'est monsieur Jacques Prévert, un grand grand nom de la littérature, 80 ans après l'apparition de Parole. Pourquoi Prévert reste-t-il un auteur aussi populaire, aussi accessible, mais aussi adaptable à ce genre de festival?
Je pense qu'il y a des gens qui continuent de parler au monde et à quel on s'intéresse. Il y a des gens qui passent de mode très vite, parce que les mots qu'ils utilisent passent, parce que les thèmes qu'ils utilisent ou qu'ils abordent passent. Et puis il y a des gens qui restent d'actualité. C'est incroyable avec Jacques Prévert, puisque tout ça, c'est au sortir de la guerre. Jacques Prévert, il devient célèbre pendant la guerre avec des scénarios de films, juste après la guerre avec Les Enfants du Paradis. C'est d'abord quelqu'un qui est célèbre comme scénariste de cinéma. Il met très longtemps à écrire. Il écrit, mais c'est poèmes sont pas forcément publiés ou sont publiés un peu à droite à gauche, et il faut la force d'un éditeur en 46 pour lui dire mais si il faut mettre tout ça dans un recueil et publier un recueil de paroles. D'ailleurs, ce sont pas des poèmes, il y a toutes sortes de textes finalement. C'est des chansons, c'est des poèmes, c'est des pièces de théâtre, c'est des scénettes, c'est des essais. Il y a de tout dans ses paroles. C'est pour ça que ça s'appelle des paroles et pas des poésies. Et ce qui est incroyable, c'est que dès le départ, c'est un succès phénoménal, un succès d'après-guerre. Je pense que la jeunesse d'après-guerre s'y retrouve complètement dans les thèmes qu'il parle, dans le choix de la liberté, dans l'envie de parler à l'universel, de se battre contre la guerre qui vient de se terminer, contre tous les malheurs qu'ils ont eu, contre les oppressions diverses et variées, celles des décolonisations, les oppressions contre les femmes. Bref, il touche à plein de sujets qui nous touchent encore aujourd'hui. Et puis, il y a un côté enfantin, un côté simple, qui fait que rapidement aussi, il rentre dans les cours d'école, dans les classes, dans les programmes, et que on a tous, sans doute, appris à un moment ou à un autre un poème de Prévert depuis ses 80 ans. Donc, il s'est retrouvé partout, comme faisant partie de notre patrimoine culturel. Il y a eu beaucoup de ces paroles qui ont été mises en chansons. 64 des 90 poèmes de paroles sont devenus des chansons. Il y en a qu'on connaît par cœur. Rappelle-toi Barbara, on chante encore Les Feuilles Mortes. Enfin bref, il y a plein de chansons qui sont restées. Et quelque part, c'est resté. Alors peut-être que c'était le moment d'en parler autrement, et de ces 80 ans, de se replonger dans Parole, parce que quelque part, ça fait partie de l'atmosphère générale. C'est quand même souvent lié à des chansons ou à des trucs pour enfants, etc. Prévert, c'est très dur, c'est très politique, c'est très engagé. Et ces paroles données, elles ont un sens pour lui. Et quand on va plonger dans Parole, ce qu'on va faire pendant ce festival, on va se rendre compte que derrière les standards et les choses les plus connues, il y a des choses qu'on connaît moins peut-être, mais qui sont d'une force importante et qui surtout résonnent encore aujourd'hui.
Vous venez de l'expliquer très très brillamment, si je puis dire. La parole peut s'exprimer via des médiums très différents. Et là aussi, dans le festival, il y a de la chanson, du théâtre, des ateliers, du karaoké et même des jeux. Est-ce que l'idée, c'est aussi de sortir le mot du livre pour le remettre au milieu de la vie culturelle de vos visiteurs.
Absolument, c'est ce que je disais au départ. Nous, on n'est pas un festival littéraire, on n'est pas un festival du livre, on est un festival du mot.
Bah, c'est vrai que la confusion, quand on ne connaît pas, on voit festival du mot, on pense tout de suite au bouquin.
Et c'est vrai. Et on fait beaucoup pour expliquer qu'il n'y a pas que les livres. Alors, bien sûr, les livres sont forts, ils sont présents. C'est souvent à partir des livres qu'on construit la programmation. On a aussi envie, parce qu'on est, je pense, tous des lecteurs assidus et qu'on aime la lecture, on a envie d'inciter des gens à aller lire, mais pour se retrouver à lire un livre, eh ben, c'est pas forcément en vous mettant le livre entre les mains de force qu'on va y arriver. Il y a plein de façons d'arriver...
On déplaise à certains profs.
Il y a plein de façons d'arriver à la lecture. Donc nous, le but, c'est d'amener les gens au livre et à la lecture par toutes sortes de moyens, les moyens les plus détournés, en chantant des chansons, en traduisant des choses, en faisant des jeux de mots. Aimer faire des jeux de mots bien lourds en plus, et ça fait vraiment plaisir. Donc ce festival, c'est le mot sous toutes ses formes, donc ça convient tout à fait à Prévert. On espère, j'espère, je pense que Jacques Prévert aurait apprécié un festival comme le nôtre, lui qui aimait casser les genres et puis s'adresser au plus grand nombre possible et pas de se dire qu'il y avait des gens qui étaient en capacité de comprendre et d'autres qui n'étaient pas en capacité de comprendre ce fameux start à la crème que moi je déteste et dont on n'arrive pas à se débarrasser comme du chewing-gum sur les doigts, ce populaire élitiste qui est lancé à tout va.
Ce populaire élitiste, oui, une belle contradiction, justement.
Bah oui, souvent on fait cette contradiction, on est soit populaire, soit élitiste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire élitiste ? Qu'est-ce que ça veut dire populaire ? Est-ce qu'on peut... Voilà, moi, c'est des mots qui... Ça, c'est des mots que j'aime
pas. Ça
vous
parle pas, ouais.
C'est des mots que j'aime pas du tout, parce que je les comprends pas. Ils sont faciles à dire, mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Voilà... Prévert, il est quoi ? Il est populaire, c'est un poète, il écrit des choses qui sont complexes, sur la complexité de la vie, il en parle simplement, on le récite à l'école, alors il est où ? Il est où dans tout ça ? Je pense qu'il faut essayer de casser ces barrières, ces paroles que l'on donne un petit peu et qu'on remet pas en cause. On s'en fiche finalement que ce soit ceci ou cela. Est-ce que ça vous touche ? Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous avez envie de vous en saisir ? Est-ce que vous avez envie de le partager ? Il y a suffisamment de mots, de livres et de chansons dans le monde pour tout le monde.
Toujours sur votre édito que j'évoquais tout à l'heure, vous écrivez, je cite, que nous vivons dans une époque de déclaration à l'emporte-pièce, où les opinions remplacent parfois les analyses et où les programmes ne sont plus toujours tenus. J'étais assez stupéfait de voir cette phrase très engagée, quelque part. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que ce festival est aussi une réponse culturelle à la brutalisation de la parole publique et politique ?
Je pense qu'elle l'est en creux. Nous, le but du festival, c'est d'abord de proposer un week-end où on va passer du bon temps, où on va, comme j'ai dit, on va rentrer dans toutes ces choses-là par des jeux, par des graphes, par du karaoké, par toutes sortes de choses. Ça ne veut pas dire que quelque part, ça ne nous amène pas à réfléchir. J'aime pas non plus dire aux gens ce qu'ils doivent penser, et comment ils doivent réfléchir, comment ils doivent se positionner. Par contre, mettre en avant certaines contradictions, amener les gens à se poser la question, tiens, c'est vrai que cette parole donnée, qu'est-ce que ça veut dire ? Les gens sont capables de réfléchir eux-mêmes.
Donc pas répondre à la question, mais la poser en fait.
Moi, je pose des questions, et je pense qu'en creux, parole donnée, ça va amener ces questionnements un petit peu, et c'est vrai que c'est des questionnements qui sont importants. On sort de période électorale, on va en retourner bientôt. Bon, les gens, vous avez reçu beaucoup de promesses, on vous a fait beaucoup de promesses, les gens ont donné leurs paroles, vous avez donné vos voix en échange. Tout ça, ça fait partie finalement de cette conversation sociale et démocratique. Elle existe, elle est là. Voilà. Peut-être que c'est bien de la questionner, de la voir un petit peu autrement, et pas forcément trop sérieusement non plus, mais gardez ça en tête, dans un petit coin de sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire de donner sa parole ? Est-ce qu'on peut la reprendre le lendemain ou qu'est-ce que ça veut dire de la garder ou de la tenir ?
Une des réponses aura sans doute lieu lors d'un de vos événements RFI Radio France Internationale intitulé « Et si les journalistes apprenaient à écouter ?» Pour nous, Radio Locale, c'est forcément intéressant. Je me sentais obligé de vous en parler de cet événement. Pourquoi avoir inclus cette réflexion sur l'écoute journalistique dans un festival consacré aux mots et dans un contexte, il faut le dire, où la concentration des médias est plus forte que jamais ?
Déjà, ça vient d'un partenariat historique du festival qu'on a avec Radio France Internationale depuis le début, depuis 2019, et l'idée de départ, c'était tout bête, c'était de faire écouter des émissions en public, ce qui est rare parce que on est écouté un peu partout dans le monde, mais on est rarement en face des gens qui vous écoutent dans les radios, c'est votre cas également, surtout Radio France Internationale qui pour le coup a un auditoire qui est à travers très le monde, donc les gens qui font les émissions sont pas forcément en contact avec les personnes qui les écoutent, donc ça leur plaisait beaucoup de pouvoir faire écouter les émissions, être là pendant les écoutes, c'est-à-dire que les personnes qui ont fait les émissions, les réalisateurs, les producteurs, les créateurs des émissions sont présents à la Charité sur Loire, et vous présentent un tout petit peu leur émission, puis ensuite vous pouvez rester et discuter avec eux. Il y a cet échange-là qui est assez particulier, et ça marche très bien. On travaille vraiment main dans la main avec Radio France Internationale, qui est un partenaire de la programmation, c'est pas juste un partenaire média, et on réfléchit, tiens, cette année, par rapport à la thématique, quelle émission pourrait être bien? Et puis Ludovic Dunod, qui gère les magazines, envoie un mail à sa rédaction en disant, voilà, ça vous dit quoi tout ça? Et puis il y a des retours. Et puis cette année, il y a eu deux journalistes qui ont réagi, et je trouve qu'ils ont réagi vachement de manière intéressante, parce que ça nous permet aussi d'aborder notre thème à nous sous des angles qu'on n'a pas forcément imaginés. Et là, vous parlez de Steven Jambot, qui a cette émission sur l'atelier des médias. Les médias et la parole, forcément, on est dans le cœur du sujet. Et il a fait une émission il y a quelques temps avec une chercheuse et une journaliste qui s'est posé la question de savoir, effectivement, on donne la parole à des gens, on leur pose des questions, mais est-ce qu'on écoute vraiment les réponses ? Elle parle des journalistes parce que c'est le cadre de son livre, mais c'est une question qu'on peut se poser aussi. Est-ce que de plus en plus, on n'a pas déjà la réponse à la question qu'on est en train de poser ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être à l'écoute et recueillir une parole ? C'est être capable de recueillir la parole de la personne qui vous la donne, pas de faire dire à la personne que vous interviewez ce que vous avez envie qu'elle vous dise. C'est ça ce que pose la question de cette émission, donc c'est passionnant et on est en plein sur la place finalement de la parole donnée ou récoltée.
Un beau lieu d'échange entre journalistes et auditeurs ou lecteurs ou téléspectateurs selon le format choisi. Plusieurs propositions du programme donnent une place aux paroles qu'on entend peu. On a beaucoup parlé des gens qui parlent beaucoup, j'aimerais qu'on parle des gens qui parlent un peu moins. Je pense aux jeunes filles du bon Pasteur, les langues dites étrangères, les paroles populaires ou le patrimoine oral, pardon d'avoir utilisé le mot populaire, je sais qu'il vous tend.
On fait ce qu'on veut.
Est-ce que l'un des rôles du festival est de faire remonter les voix invisibles? Vous savez, en anglais, on dit « the voice of voiceless », les voix des sans-voix.
C'est important, donner la parole le plus largement possible. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont l'occasion de prendre la parole plus que d'autres. Ah, c'est mon cas, là, dans l'émission. Ici, il y en a qui l'ont moins. Ce qui m'a plutôt intéressé dans ça, c'est, d'une part, c'est vrai que moi, je viens du domaine du théâtre beaucoup, et il y a une artiste que je suis et que j'aime beaucoup depuis que j'ai vu ses tout premiers spectacles. Elle s'appelle Sonia Chiambretto. Et quand j'ai voulu faire un festival autour des paroles, j'avais clairement envie qu'elle soit présente et de la faire connaître, parce que c'est pas forcément quelqu'un qui a pignon sur rue pour le grand public. Sonia Chiambretto, elle est incroyable parce que elle va aller chercher des paroles, justement des paroles qu'on n'entend pas souvent ou dans des endroits qui sont un peu délaissés, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, auprès de personnes qui parlent à peine le français. Là, ça se passe dans des centres éducatifs fermés. Elle aime beaucoup parler avec des adolescents et avec des mineurs parce que leur parole est parfois un peu stéréotypée. On n'écoute pas forcément toujours ce qu'ils ont à dire. Donc, ça nous ramène à la question précédente. Et elle est fascinée par ces paroles-là. Donc, elle a fait de nombreuses incursions, notamment dans des lycées un peu difficiles parfois pour recueillir des paroles, et elle va vraiment parler avec les gens, les écouter, mais aussi se documenter, et à partir de tous ces documents et de toutes ces paroles qu'elle va récolter, elle crée elle-même des spectacles et elle écrit des livres qui sont pas forcément repris au mot à mot tout ce qu'elle a eu, mais qui donne un sens et qui donne une voix, et une voix poétique parce qu'elle a une façon d'écrire qui est très très belle, et elle arrive à faire ressortir la poésie de paroles qu'on a tendance à considérer comme des sous-paroles ou des paroles qu'on n'écoute pas, etc. Donc elle amène aussi des paroles difficiles et peu entendues dans l'univers de la poésie et du théâtre. Elle ne les regarde pas avec condescendance, elle les met vraiment au même niveau. Et là, elle a fait tout un travail avec un titre qui est très très beau, qui s'appelle « Peine mineure ». Elle a été passée beaucoup de temps dans les centres éducatifs fermés avec des mineurs qui sont dans ces centres. Alors, ce n'est pas des prisons, ce sont des alternatives voilà, éducatives qui ressemblent quand même pas mal à des univers carcéraux. Et donc, elle a parlé avec ces jeunes filles, elle en a fait des portraits et sort ce spectacle et ce livre qui s'appelle Peine mineure, qu'elle a mis ensuite en parallèle avec des institutions qui ont existé à la fin du 19e siècle jusque dans les années 70, notamment une institution qui s'appelle le Bon Pasteur, qui étaient en gros des maisons de redressement pour jeunes filles, comme on pouvait dire ça, où finalement se retrouvaient beaucoup de mineurs pour des raisons parfois très 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 éloignées de mauvaises choses qu'elles auraient faites, ou alors les mauvaises choses étant de mal répondre, de fumer à table, de faire des choses qu'on a envie de faire. Et elle a fait ce double spectacle. Donc on va avoir la chance de passer la journée avec Sonia Chiambretto. Elle va faire une lecture d'un texte, d'un autre parole. Elle s'est intéressée aux gens qui travaillent dans le domaine de l'hôtellerie, où on est aussi très très formaté et où on est un peu suivi comme des à la lettre. Donc elle s'est intéressée à ces paroles-là qu'elle lira elle-même, et puis l'après-midi il y aura un spectacle. Là c'est pas elle qui sera sur scène, c'est une merveilleuse, vraiment merveilleuse jeune actrice qui s'appelle Inès Quero. Elle a 20 ans, elle est incroyable, et elle nous fera partager ses paroles de ses peines mineures. Ça, c'est le vendredi après-midi. Et puis, en fin d'après-midi, ben, on aura l'occasion de discuter avec Sonia pour qu'elle explique un petit peu comment elle travaille et ce qu'elle fait. Donc voilà, c'est toujours aussi la question du festival, c'est de proposer à des gens, non pas une seule entrée unique vers quelque chose, mais de faire rencontrer un univers artistique ou une artiste sous différentes formes, en lecture, en spectacle, en rencontre, en discussion.
Est-ce que la culture, elle est là pour aussi réparer quelque part une forme d'effacement de ces paroles ?
Elle est une des façons de le faire. En tout cas, c'est important pour des artistes et pour une artiste comme Sonia Chiambretto. C'est l'endroit où elle a envie d'être. Et c'est ça qu'elle a envie d'exprimer. Après, les gens l'écoutent, les gens ne l'écoutent pas. L'art et la culture, des fois, on parle à qui on veut ou des fois, on touche personne. L'important, c'est d'être droit et de savoir pourquoi on le fait. Je crois que Sonia, elle sait complètement pourquoi elle fait ça. Et notre but à nous, dans un festival, ben, c'est de lui permettre de toucher un public que peut-être elle n'aurait pas touché autrement.
Tous ces événements auront lieu dans des lieux distincts. Votre festival investit le cloître, le prieuré, le jardin des bénédictins, le quai Senghor, le cinéma et même les commerçants. Est-ce que la Charité sur Loire devient une scène en elle-même ?
Oui, ben l'avantage d'être dans une petite ville de 4500, 4800 habitants comme la Charité-sur-Loire, une petite ville médiévale qui est très très resserrée autour du prieuré, puisqu'elle s'est construite autour du prieuré, avec la Loire à côté, c'est clair que c'est parfait pour un festival, parce qu'on peut, un festivalier peut arriver, peut se balader, s'asseoir à une terrasse, manger un morceau, retrouver un lieu, tout peut se faire à pied, donc on est dans un petit village de festival, ce qui est plus facile qu'un festival dans une grande ville. Il faut prendre le métro, etc., pour aller voir, traverser la ville. Il n'y a pas encore le métro à la Charité. Il faut juste traverser le pont de temps en temps pour aller sur le quai Senghor avec les écoutes RFI. C'est le plus loin que vous ayez à faire et c'est une belle balade à faire. Donc oui, c'est super d'avoir un festival qui peut habiter des espaces comme ça, qui sont beaux, qui sont agréables. Ça met aussi en valeur la ville. Et puis nous, on essaye d'utiliser des endroits un peu différents.
Le programme accorde aussi une vraie place aux familles. Bibliothèque, ludothèque, spectacle pour les 3 à 5 ans, animation dans le cloître, hein, vous venez d'en parler. Pourquoi est-ce que c'est important que le mot soit aussi une affaire d'enfant ?
Je ne sais pas à quel âge vous avez dit votre premier mot.
J'ai la chance de ne pas m'en rappeler.
Voilà, c'est marqué dans le carnet de santé.
Ma mère s'en rappelle très bien.
Voilà, voilà, les mots, ça vient très vite. Hein. Donc, encore une fois, on n'est pas un festival de philosophie littéraire. Donc, on est un festival autour du mot. Et les mots, ils viennent très tôt. Ils sont utilisés très tôt et souvent de manière vachement intéressante, d'ailleurs, par les plus petits. Et ça participe de ce que je dis depuis le début de l'émission, c'est-à-dire que nous, on s'adresse à tout le monde, donc c'est important pour nous de pouvoir attirer aussi des familles. Il y a des gens qui viennent parce que ils connaissent déjà Sonia Cambretto et ça les intéresse d'aller voir tel ou tel spectacle, mais ce qu'on a réussi à faire, c'est à être un lieu de sortie pour des gens qui sont là sur le week-end de l'Ascension, qui habitent dans la région, ou alors qui sont venus pour le week-end, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui viennent pour le week-end, qui ont des résidences secondaires ou chez leurs parents en week-end, qui se disent tiens, qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants cet après-midi. Venir à la charité et venir au cloître, c'est bien parce que vous savez qu'il y aura, il y en aura pour tout le monde. Vous pourrez écouter une rencontre, mais les enfants pourront aussi se faire lire une histoire. Il y a des spectacles pour les tout petits, où vous pouvez faire des rébus. Il y a une yourte, on a une merveilleuse yourte cette année où on vous raconte des histoires. Donc, avoir plein d'endroits où on peut s'asseoir, écouter tranquillement, flâner, c'est aussi important. Donc, c'est un festival et on le voit bien où de plus en plus de familles passent. On a aussi l'avantage d'être un cloître, donc un lieu un petit peu fermé et un peu sécurisé pour des enfants. Donc, ils courent un peu partout dans le cloître et on est sûr, à peu près sûr de ne pas trop les perdre. Et pour toutes ces raisons, on a de plus en plus de gens qui viennent. Donc, moi, ce qui m'avait frappé, par exemple, l'année dernière au festival, quand on a pris les photos, quand on regarde les photos à la fin du festival, c'est que sur toutes les photos du cloître, il y avait des personnes âgées, des tout-petits qui marchaient, des parents, des familles. Il y avait tous les âges et il y avait tous les genres de personnes qui étaient là. Et on s'est dit, là, on a vraiment réussi quelque chose. On a vraiment réussi à faire un festival où, quand on prend une photo, on va se rendre compte qu'il y a différentes sections de la population qui sont là. C'est important aussi que les gens se rencontrent. Les générations ont tendance à être chacune dans leur coin. Donc, c'est aussi pour ça que les animations, on aime les faire en famille, plutôt de dire c'est pour les petits, c'est des choses qu'on fait en famille. Il y a 2 ans, on avait quelqu'un qui nous faisait écouter des 45 tours. Tout d'un coup, toute la famille était là, parce que le grand-père était super content de retrouver ses 45 tours. Le papa expliquait que les 45 tours, c'était un truc qu'il y avait avant, mais maintenant ça n'existe plus. Et puis les gamins étaient en train de se demander qu'est-ce que c'était que ce truc et comment ça marchait. Donc ça les obligeait aussi, ça les mettait en conversation entre générations et entre eux. C'est aussi une des choses qu'on essaye de faire au festival.
Il y a une quarantaine de propositions dans ce festival, on n'aura malheureusement pas le temps de revenir une par une dessus. C'est pour ça que je voulais vous demander de donner peut-être 3 propositions que vous vouliez mettre en avant. On en a déjà parlé de 2-3. J'imagine que c'est pas facile de choisir, mais si vous aviez peut-être un coup de cœur ou une proposition ou 2-3 que vous vouliez mettre en avant.
Alors le coup de cœur, c'est le festival entier. J'ai la chance ou la lourde charge de choisir tout ça, donc pour moi il n'y a que des coups de cœur, mais il y a effectivement des choses un peu différentes qui peuvent vous intéresser. Je vous conseillerais quand même d'aller le vendredi soir à la salle des fêtes, écouter et voir un des grands artistes et un des grands acteurs français, il s'appelle Marcel Bozonnet. Il a à peu près tout fait, Marcel Bozonnet. Il a été à la Comédie Française, il a été administrateur de la Comédie Française, directeur du Conservatoire, directeur de la Rue Blanche. Bref, c'est un des grands, grands, grands acteurs français. Et il a une autre particularité, c'est qu'il rajeunit au fur et à mesure des années qui passent. Il fête cette année ses 80 ans. Et en fait, moi, je l'ai connu il y a 30 ans, quand il a créé ce spectacle, La Princesse de Clèves. Et je l'ai revu récemment, mais je trouve qu'il a effectivement rajeuni. Et il est tombé il y a 30 ans en amour devant ce texte, La Princesse de Clèves. Il a commencé à en faire un spectacle tout à fait particulier, à la fois dans la diction, dans la gestuelle. Et ça fait 30 ans qu'il le joue, ce spectacle. Et quand on en parlait avec lui, c'est pas du tout « ça fait 30 ans qu'il le joue parce que ça marche et qu'il le refait ». Chaque fois, il le change, il le fait évoluer. Et ce qu'il me disait, mais moi, je suis beaucoup plus souple maintenant qu'il y a 30 ans. Il y a beaucoup de danse, beaucoup de chorégraphie dans ce spectacle. Il disait, il y a 30 ans, j'avais beaucoup de mal avec la chorégraphie du spectacle, ça me faisait mal. Et maintenant, je me rends compte que mon corps s'est habitué et que ça marche beaucoup mieux. Donc c'est une soirée assez magique. C'est à 21h à la salle des fêtes le vendredi 15 mai. C'est La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. C'est une langue absolument incroyable et c'est un grand acteur français, donc moi je vous conseille d'aller le voir et d'aller l'écouter. Ce serait un de mon coup de cœur. Autre coup de cœur que je vous conseille, vous êtes le vendredi à 18h30, Jardin des Bénédictins, c'est un jardin ouvert à tous. C'est ouvert à tous et c'est gratuit, vous pouvez y aller. Là, on a contacté des linguistes. Alors, les linguistes, c'est sérieux, hein. On rigole pas trop avec les linguistes et les chercheurs en linguistique.
Il y en a des drôles, j'imagine.
Il y en a des drôles et il y en a des gens qui sont très intéressants. Et c'est le cas de Julien Barret et de Gilles Sioufi. Julien Barret, c'est un jeune, il est linguiste, mais il est aussi slameur, il est aussi poète. L'année dernière, il était venu nous faire un spectacle où il nous avait expliqué la différence, ou en tout cas la non-différence, entre les troubadours médiévaux et les slameurs d'aujourd'hui. C'était passionnant, ça avait beaucoup attiré les foules. C'était ni une conférence, ni un spectacle, c'était un peu un mélange. Donc cette année, je lui avais dit, mais faut que tu nous refasses quelque chose. Et cette fois-ci, il a été chercher un des grands linguistes français qui s'appelle Gilles Sioufi, qui est vraiment, pour le coup, une tête, hein, professeur à la Sorbonne, spécialiste de l'histoire de la langue française, qui a écrit plusieurs livres importants sur l'histoire de la langue française. Et ils ont décidé de se plonger dans la thématique du festival. Paroles données. Les paroles données, ce sont des serments, mais ce sont aussi les serments, ce sont aussi des jurons. Jurer, ça veut dire se jurer, se donner une promesse, mais ça veut dire aussi dire des gros mots. Donc ils sont partis là-dessus. Ils se sont amusés à raconter une histoire de la langue française, de serments en jurons. Donc il sera question du serment de Strasbourg en l'an 800 et quelques, du serment du jeu de paume, mais aussi de jurons, de la manière dont on jure, notamment au Québec. Vous savez, il y a tous ces sacres québécois avec ces tabernacles, ces autres jurons. Donc ce sera un mélange, un duo. On ne sait pas encore trop ce que ça va être, mais ils prennent beaucoup de plaisir à le proposer. Et puis ce sont quand même des grosses têtes, l'un et l'autre. Donc ça, c'est un moment complètement un peu bizarre à ne pas manquer, donc ça je vous le conseillerais. Et puis si je dois vous conseiller une troisième chose, je vais la trouver tout de suite. Ben, c'est un autre spectacle qui a lieu à midi. Donc c'est gratuit, c'est au Jardin des Bénédictins, c'est samedi à midi. Là c'est une toute jeune compagnie, c'est une compagnie de théâtre qui s'appelle la compagnie 7 heures d'avance. Ils sortent tous des jeunes écoles de théâtre françaises ou à peine. Et ça s'appelle La Métamorphose. Et eux ils ont voulu donner la parole, faire un théâtre dit documentaire. Donc ils ont été avec leur micro et leurs enregistreurs prendre des paroles de gens, des nouveau-nés jusqu'aux personnes très âgées, pour raconter finalement l'histoire, notre histoire de notre vie. Ça s'appelle La Métamorphose. Alors on n'est pas dans Kafka, La Métamorphose c'est ce passage de l'âge de bébé à l'âge de vieillard. Donc ils ont récupéré comme ça toutes sortes de paroles qu'on leur a données, et la manière dont ils vous le rendent, c'est assez spectacle, parce qu'ils n'ont pas écrit un spectacle, ils n'ont pas écrit un texte par rapport à ça. Ils ont fait un montage audio. Et ce montage audio, ils le mettent dans leurs oreillettes, et pendant le spectacle, en fait, ils vous redisent ce qu'ils écoutent dans leurs oreillettes. Donc ils vous donnent à l'exact ce qu'ils sont en train d'écouter. Et c'est assez étonnant, parce que finalement, on entend tous les accidents du langage, ceux que j'ai dû faire ici, les grattements de gorge, les hésitations, la langue qui fourche. Chacun de ces moments est rendu tel quel, et ça donne une impression tout à fait étrange, à la fois d'ultra-réalité et à la fois cette distance, puisque ce sont les acteurs qui sont en train de jouer cette chose-là. C'est assez étonnant, c'est réjouissant, et puis ça raconte une histoire, et puis ils ont une énergie vraiment folle. Donc ça s'appelle La Métamorphose, c'est à midi, le samedi 16 mai au Jardin des Bénédictins, c'est gratuit. Donc voilà, c'est trois choses très très différentes qui vous permettent de plonger dans les paroles.
Je vous ai bien écouté décrire ces événements, et Bac FM étant une radio jeune, je sais de source sûre que certains des lycéens ou lycéennes qui nous écoutent sont des artistes. Alors, je sais de façon certaine qu'il y en a qui font du cirque, notamment, il y a des poètes, il y a des écrivains, il y a des danseurs, enfin bref, tous les arts variés et possibles, et qui se disent peut-être, tiens, peut-être j'aurai ma place dans le festival d'humour, est-ce qu'on peut auditionner pour l'année prochaine? Comment ça se passe?
Alors, on auditionne, on fait pas vraiment d'audition, généralement, on lance un mot, un truc, et puis après, à partir de ce mot, moi je commence à aller chercher des choses, et puis on vit ici, donc on reçoit plein d'infos, on reçoit plein de mails, on peut nous envoyer des mails, hein. Nos mails ils sont facilement accessibles, donc je reçois beaucoup de propositions, on parle aussi avec plein de gens, qui nous disent « Ah bah oui, vous savez, il y a tel ou tel gens qui font ça, il faudrait que vous allez les voir, etc. » Donc l'information, elle circule, on a les oreilles grandes ouvertes, et puis voilà, de temps en temps, on tombe sur quelque chose qui est tout à fait en phase avec ce dont on a besoin, et qui est au bon endroit, au bon moment, et ça part. Et effectivement, l'important, comme on l'a là, comme je viens de le montrer là, la métamorphose, c'est des tout jeunes acteurs qui sortent d'école ou même pas. Il y a aussi Marcel Bozonnet qui est un des grands acteurs qui lui a été directeur de toutes les grandes institutions. C'est important aussi qu'ils puissent être ensemble sur ce festival. Donc il n'y a pas de raison de pas se lancer. Envoyez-nous des choses, soyez en contact avec nous. On est aussi en contact toute l'année. On a fait des projets avec Bac FM, avec des lycéens, mais aussi des gens qui sont pas encore lycéens. Il y a plein de façons de rentrer. N'ayez pas peur des mots, n'ayez pas peur de nous, sachez juste que quand vous envoyez une idée, ben, vous paraît être la meilleure idée du monde, mais on reçoit aussi beaucoup de sollicitations, beaucoup d'idées. Cette année, il y a une quarantaine de propositions. Quand on fait le compte, ben, ça fait 3 spectacles, 4 rencontres.
C'est dur de choisir.
Oui, c'est dur de choisir parce qu'on aimerait qu'il y ait plein de choses. Il y a tellement de gens qui ont des choses merveilleuses à dire. Moi, il y avait plein de trucs que j'aurais adoré pouvoir avoir. Il y en a qu'on peut pas faire parce qu'on n'a pas les moyens. Il y en a qu'on peut pas faire parce que les gens sont pas disponibles aux bonnes dates. Voilà, j'aurais bien aimé parler des carnets de doléances, par exemple, dans les paroles données. Finalement, ça s'est pas fait. Voilà, il y a plein de choses qu'on fait pas. Mais au final, je pense que le festival, il a une énergie et une unité qui fait que si on le parcourt, moi ça m'arrive à chaque fois de fin de festival, en fait c'est généralement à la fin du festival que je commence un peu à comprendre pourquoi le mot-clé, c'est parole donnée. En fait, c'est pas comme si j'avais une idée géniale et que je déclinais de tout ce que je savais. En fait, c'est fait aussi pour nous, pour réfléchir à un festival. C'est fait pour ça. Y aller sans trop d'a priori, être prêt à la découverte, et puis se donner des idées, trouver des trucs qu'on n'avait pas pensé. Pour moi, c'est le plus important.
J'ai une dernière question pour vous. Si vous deviez résumer cette édition 2026 en une phrase, où vous me voyez venir en un mot, ça serait lequel ?
Parole donnée, on ne peut pas faire autrement.
Parole donnée, ça fait deux mots, mais je vous le compte quand même.
Mieux compter, Maître Capello.
Merci de la référence. Merci beaucoup Philippe Lemoine d'avoir été avec nous sur Bac FM. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Cité du Mot. Revenez quand vous voulez.
Ce sera fait.
Le festival aura lieu du 14 au 16 mai à la Charité-sur-Loire avec des spectacles, des rencontres, des lectures, des concerts, des ateliers et de nombreuses propositions en accès libre. Tout est disponible. Vous tapez Cité du Mot Festival aux quatre coins du mot sur Internet et vous aurez toutes les infos. C'était CDLP, c'est dans les parages, votre émission 100% locale sur Bac FM. Restez avec nous, la suite arrive tout de suite avec le retour de la musique pop-rock et métal.